Voltaire, dictionnaire philosophique, tout est bien. Ce fut un beau bruit dans les écoles et même parmi les gens qui raisonnent, quand Leibniz, en paraphrasant Platon, bâtit son édifice du meilleur des mondes possibles et qu'il imagina que tout allait au mieux. Il affirma, dans le nord de l'Allemagne, que Dieu ne pouvait faire qu'un seul monde. Platon lui avait au moins laissé la liberté d'en faire cinq, par la raison qu'il n'y a que cinq corps solides réguliers, le tétraèdre ou la pyramide à trois faces avec la base égale, le cube, l'hexaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Mais comme notre monde n'est pas la forme d'aucun de ces cinq corps de Platon, il devait permettre à Dieu une sixième manière. Bon, laissons là le divin Platon. Leibniz, qui était assurément meilleur géomètre que lui et plus profond métaphysicien, rend donc le service au genre humain de lui faire voir que nous devons être très contents et que Dieu ne pouvait pas faire davantage pour nous, qu'il avait nécessairement choisi entre tous les partis possibles et le meilleur sans contredit. Mais alors que deviendra le péché originel ? Lui criait-on. Bon, il deviendra ce qu'il pourra, disait Leibniz et ses amis. Mais en particulier, il écrivait que le péché originel entrait nécessairement dans le meilleur des mondes. Quoi ? Être chassé d'un lieu de délices ? Vous n'en aurez vécu à jamais si on n'avait pas mangé une pomme ? Quoi ? Faire dans la misère ? Des enfants misérables qui souffriront tout, qui feront tout souffrir aux autres ? Quoi ? Éprouver toutes les maladies, sentir tous les chagrins, mourir dans la douleur et pour rafraîchissement, être brûlé dans l'éternité des siècles ? Se partage-t-il bien ce qu'il y avait de meilleur ? Ce n'est pas trop bon pour nous ? Et en quoi cela peut-il être bon pour Dieu ? Leibniz sentait qu'il n'y avait rien à répondre. Aussi fit-il de gros livres dans lesquels il ne s'entendait pas. Nier qu'il y ait du mal, cela peut être dit en riant par un Lucullus qui se porte bien et qui fait un bon dîner avec ses amis et sa maîtresse dans le salon d'Apollon. Mais qu'il mette la tête à la fenêtre, il verra des malheurs, et qu'il ait la fièvre, il le saura lui-même. Je n'aime point à citer. C'est d'ordinaire une besogne épineuse. On néglige ce qui précède et ce qui suit l'endroit qu'on cite, et on s'expose à mille querelles. Or, il faut pourtant que je cite Lactance, père de l'Église, qui dans son chapitre 13 de la colère de Dieu, fait parler ainsi Épicure. Où Dieu veut ôter le mal de ce monde et ne le peut, où il le peut et ne le veut pas, où il ne le peut ni le veut, où enfin il le veut et il le peut. S'il le veut et ne le peut pas, c'est impuissance, ce qui est contraire à la nature de Dieu. S'il le peut et n'en veut pas, c'est méchanceté, et cela est non moins contraire à sa nature. Et s'il ne le veut ni ne le peut, c'est à la fois méchanceté et impuissance. Et s'il le veut et le peut, ce qui solde ces parties convient à Dieu, d'où vient donc le mal sur la terre ? L'argument est pressant, mais aussi Lactance y répond fort mal en disant que Dieu veut le mal, mais qu'il nous donne la sagesse avec laquelle on acquiert le bien. Il faut avouer que cette réponse est bien faible en comparaison de l'objection, car elle suppose que Dieu ne pouvait donner la sagesse qu'en produisant le mal. Et puis, nous avons une plaisante sagesse. L'origine du mal a toujours été un abîme dont personne n'a pu voir le fond. C'est ce qui réduisit tant d'anciens philosophes et des législateurs à recourir à deux principes, l'un bon et l'autre mauvais. Typhon était le mauvais principe chez les Égyptiens, Ahriman chez les Perses. Les Manichéens adoptèrent, comme on sait, cette théologie, mais comme ces gens-là n'avaient jamais parlé ni au bon Dieu, ni au mauvais principe, il ne faut pas les en croire sur leurs paroles. Parmi les absurdités dont ce monde regorge et qu'on peut mettre au nombre de nos mots, ce n'est pas une absurdité légère que d'avoir supposé deux êtres tout-puissants se battant à qui des deux mettrait près du sien dans ce monde, faisant un traité comme les deux médecins de Molière. Passez-moi l'hémétique et je vous passerai la saignée. Basilde, d'après les platoniciens, prétendit, dès le premier siècle de l'Église, que Dieu avait donné notre monde à faire à ses derniers anges, et que ceux-ci, n'étant pas habiles, firent les choses telles que nous les voyons. Cette fable théologique tombe en poussière par l'objection terrible qu'il n'est pas dans la nature de Dieu tout-puissant et tout-sage de faire bâtir un monde par des architectes qui n'y entendent rien. Simon, qui a senti l'objection, la prévient en disant que l'ange qui présidait à l'atelier est damné pour avoir si mal fait son ouvrage. Mais la brûlure de cet ange ne nous guérit pas. L'aventure de Pandore chez les Grecs ne répond pas mieux à l'objection. La boîte où se trouvent tous les maux et au fond de laquelle reste l'espérance est à la vérité une allégorie charmante. Mais cette Pandore ne fut faite par Vulcain pour se venger de Prométhée qui avait fait un homme avec de la boue. Les Indiens n'ont pas mieux rencontré. Dieu, ayant créé l'homme, il lui donna une drogue qui lui assurait une santé permanente. L'homme chargea son âne de la drogue. L'âne eut soif, le serpent lui enseigna une fontaine, et pendant que l'âne buvait, le serpent prit la drogue pour lui. Les Syriens imaginèrent que l'homme et la femme, ayant été créés dans le quatrième ciel, ils s'avisèrent de manger d'une galette au lieu de l'ambroisie qui était leur mets naturel. L'ambroisie s'exhalait par les pores, mais après avoir mangé de la galette, il fallait aller à la selle. Et l'homme et la femme prièrent un ange de leur enseigner où était la garde-robe. « Voyez-vous, leur dit l'ange, cette petite planète grande comme rien qui est à quelque 60 millions de lieues d'ici, c'est là le privé de l'univers. Allez-y au plus vite. » Ils y allèrent, on les y laissa, et c'est depuis ce temps que notre monde fut ce qu'il est. On demandera toujours aux Syriens pourquoi Dieu permit que l'homme mangeât la galette et qu'il nous en avait arriva une foule de maux épouvantables. Je passe vite de ce quatrième ciel à Milord de Bolingbroke pour ne pas m'ennuyer. Cet homme, qui avait sans doute un grand génie, donna au célèbre Pope son plan de « Tout est bien », qu'on retrouve en effet mot à mot pour, dans les œuvres posthumes de Milord Bolingbroke et que Milord Shrewsbury avait auparavant inséré dans ses caractéristiques. Lisez dans Shrewsbury le chapitre des moralistes, vous y verrez ces paroles. On a beaucoup à répondre à ces plaintes des défauts de la nature, mais comment est-elle sortie si impuissante et si défectueuse des mains d'un être parfait? Mais je nie qu'elle soit défectueuse. Sa beauté résulte des contrariétés, et la concorde universelle naît d'un contrat perpétuel. Il faut que chaque être soit immolé à d'autres, les végétaux aux animaux, les animaux à la terre et les lois du pouvoir central et de la gravitation qui donnent aux corps célestes leur poids et leur mouvement ne seront point dérangés pour amour d'un chétif animal qui, tout protégé qu'il est, n'est pas à ces mêmes lois, sera bientôt, par elles, réduit en poussière. Bolingbroke, Shaftesbury, Pope, leur metteur en œuvre, ne résolvent pas mieux la question que les autres. Leur « tout est bien » ne veut dire autre chose sinon que tout est dirigé par les lois immuables qui ne le sait pas. Vous ne nous apprenez rien quand vous remarquez, après tous les petits-enfants, que les mouches sont nées pour être mangées par des araignées, les araignées par des hirondelles, les hirondelles par des pigrièches, les pigrièches par des aigles, les aigles pour être tués par les hommes pour se tuer les uns les autres, et pour être mangés par les vers, et ensuite par les diables, du moins, mille sur un. Voilà un ordre net et constant parmi les animaux de toute espèce. Il y a de l'ordre partout. Quand une pierre se forme dans ma vessie, c'est une mécanique admirable. Des sucs pierreux passent petit à petit dans mon sang. Ils se filtrent dans les reins, passent par les urètres, se déposent dans ma vessie, s'y assemblent par une excellente attraction newtonienne. Le caillou se forme, se grossit. Je souffre des maux mille fois pires que la mort par le plus bel arrangement du monde. Un chirurgien, ayant perfectionné l'art inventé par Tubalcain, vient m'enfoncer un fer aigu et tranchant dans la périnée, saisit ma pierre avec ses pincettes, elle se brise sous ses efforts par un mécanisme nécessaire, et par le même mécanisme, je meurs dans des tourments affreux. Tout cela est bien. Tout cela est la suite évidente des principes physiques inaltérables. J'en tombe d'accord, et je le savais comme vous. Si nous étions insensibles, il n'y aurait rien à dire à cette physique. Mais ce n'est pas cela dont il s'agit. Nous vous demandons s'il n'y a point de mots sensibles et d'où ils viennent. Il n'y a point de mots, dit Pope dans sa quatrième épître, que sur le tout est bien. S'il y a des mots particuliers, ils composent le bien général. Ah, voilà un singulier bien général, composé de la pierre, de la goutte, de tous les crimes, de toutes les souffrances, de la mort et de la damnation. La chute de l'homme est l'emplâtre que nous mettons à toutes ces maladies particulières du corps et de l'âme, et que vous appelez « santé générale ». Mais Shaftesbury et Bolingbroke se moquent du péché originel. Bob n'en parle point. Il est clair que leur système sape la religion chrétienne par ses fondements. Ils n'expliquent rien du tout. Cependant, ce système a été approuvé depuis peu par plusieurs théologiens qui admettent volontiers les contraires. À la bonne heure. Il faut envier à personne la consolation de raisonner comme il peut sur le déluge des maux qui nous inondent. Il est juste d'accorder aux malades désespérés de manger de ce qu'ils veulent. On a été jusqu'à prétendre que le système est consolant. Dieu, dit Pope, voit d'un même œil et périr le héros et le moineau. Un atome ou une planète, mille précipités dans la ruine, une boule de savon, ou un monde se former. Voilà, je vous l'avoue, une plaisante consolation. Ne trouvez-vous pas un grand lénitif dans l'ordonnance de My Lord Shaftesbury, qui dit que Dieu ne va pas déranger ses lois éternelles pour un animal aussi chétif que l'homme? Il faut avouer du moins que ce chétif animal a droit de crier humblement et de chercher à comprendre en criant pourquoi ces lois éternelles ne sont pas faites pour le bien-être de chaque individu. Ce système du « tout est bien » ne représente l'auteur de toute la nature que comme un roi puissant et ne faisant qu'il ne s'embarrasse pas qu'il en coûte la vie à 400 ou 500 000 hommes et que les autres traînent leur joue dans la disette, dans les larmes, pourvu qu'il vienne à bout de ses desseins. Loin donc l'opinion du meilleur des mondes possible, console. Elle est désespérante pour les philosophes qui l'embrassent. La question du bien et du mal demeure un chaos indépréhensible pour ceux qui cherchent de bonne foi. Et c'est un jeu d'esprit pour ceux qui disputent. Ils sont des forçats qui jouent avec leurs chaînes. Pour le peuple non-pensant, il ressemble assez à des poissons qu'on a transportés d'une rivière dans un réservoir. Ils ne se doutent pas qu'ils sont là pour être mangés. Le carême, et aussi ne savons-nous rien du tout par nous-mêmes des causes de notre destinée. Mettons à la fin de presque tous les chapitres de métaphysique les deux titres des juges romains quand ils n'entendaient pas une cause. N.L. Non licet. Cela n'est pas clair.